VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 6 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anna Bertson.
D'abord, des tirs à Lubumbashi en République démocratique du Congo pour empêcher des manifestations pro-Katumbi, selon notre correspondant sur place. Les autres titres ?
Au Mali, les trois principaux opposants au président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, saisissent la justice pour bourrage d'urne.
Les belligérants au Soudan du Sud ont signé hier à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir.
En Éthiopie, pillages, émeutes et attaques à caractère ethnique dans la région somalie du pays.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump admet que son fils a cherché auprès d'une Russe des informations sur sa rivale Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016.
En Indonésie, les secours sont à la recherche de survivants après un séisme qui a fait au moins 91 morts.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale donc que des tirs dans la ville, des tirs selon lui visant à empêcher les gens de manifester contre le refus des autorités de laisser l'ancien gouverneur et candidat à la présidentielle de décembre, Moïse Katumbi, rentrer en RDC. La plateforme Ensemble prévoit à ce sujet aujourd'hui, dit-il, une marche vers le gouvernorat pour un sit-in. Notre correspondant n'a pas pu joindre le gouverneur ou les autorités de la police.
Au Mali, les trois principaux opposants ont saisi la justice pour bourrage d'urnes, violation de la loi électorale et irrégularité. Ils accusent le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Eric Manirakiza.
Une vingtaine de recours ont été déposés auprès de la Cour constitutionnelle. La suspicion de fraude électorale et en particulier de bourrage d'urnes est sur toutes les lèvres des partisans de l'opposition. Le ministère de l'administration territoriale a annoncé les résultats provisoires du premier tour seulement à l'échelle nationale. Ce manque de publication en détail alimente les allégations de manipulation du vote. D'après les résultats officiels proclamés jeudi soir, Soumaïla Cissé a recueilli le 29 juillet 17,8% des voix, contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. La Cour doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour démarrer la campagne du second tour qui se tient le 12 août. Cependant, le camp de l'ex-ministre des Finances a aussi déposé une requête en récusation de 6 des juges de la Cour constitutionnelle pour suspicion de partialité, notamment la présidente Manassa Danioko. Cette récusation est collective et portée par les 17 candidats du Front démocratique.
Nous reviendrons sur la contestation des résultats du premier tour avec Kassim Traoré en seconde partie de cette édition.
Crise au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont signé hier à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir. L'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le plus jeune pays du monde. Des détails avec Jean-Roger Bion.
En vertu de l'accord, le chef rebelle Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. L'accord a été signé hier dimanche en présence du président soudanais Omar El-Béchir et de ses homologues du Kenya, d'Ouganda et de Djibouti, ainsi que de plusieurs diplomates étrangers. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont déjà convenu d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Les deux camps avaient signé le 25 juillet un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Pour parachever ce processus, les négociations vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Après, les belligérants auront 3 mois pour former un gouvernement de transition pour une durée de 6 mois. Il sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Un accord similaire signé en 2015 avait été violé après une bataille meurtrière qui avait obligé Riek Machar à partir en exil.
Des violences agitent la région Somalie dans l'est de l'Éthiopie. Des scènes de pillage, d'émeutes et d'attaques à caractère ethnique ont continué à être observées hier. Des forces gouvernementales ont été déployées. De nouveau, Eric Manirakiza.
Les raisons exactes de ces violences qui ont débuté samedi ne sont pas claires. L'arrivée des troupes fédérales semble avoir provoqué la colère de la population somalie, déclenchant des émeutes et violences ethniques à Djidjiga et dans d'autres villes de la région. D'après un habitant, des émeutiers vidaient les coffres des banques et mettaient le feu à des églises dans cette région à majorité musulmane. Dans la soirée, le ministère éthiopien de la Défense avait publié un communiqué stipulant qu'il prendrait les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans la région. Le pays est divisé en 9 régions administratives selon un système dit de fédéralisme ethnique, censé donner un degré d'autonomie aux différentes ethnies, mais accusé dans les faits d'exacerber les sentiments d'appartenance et d'ethniciser d'anciens différents fonciers. La région Somalie est la deuxième plus grande d'Éthiopie après la région Oromo, mais aussi la plus instable. En 2017, des affrontements entre membres des ethnies Oromo et Somalie avaient fait plus d'un million de déplacés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a admis hier que son fils avait rencontré une avocate russe pour obtenir des informations sur Hillary Clinton, sa rivale démocrate à la présidentielle de 2016. Nous retrouvons Eric Manirakidza.
Le chef de la Maison-Blanche qualifie de totalement légal ce rendez-vous pourtant dénoncé comme l'indice d'une tentative de collusion avec Moscou. Il s'agissait d'une réunion pour obtenir des informations sur une opposante, totalement légale, et cela se fait tout le temps en politique. Et ça n'a mené nulle part, je n'en savais rien, affirmait-il dans un tweet. Son fils, Donald Trump Jr., avait accepté avec enthousiasme de rencontrer l'avocate russe dans la tour Trump à Manhattan. Un intermédiaire lui avait promis des informations compromettantes émanant du gouvernement russe sur Hillary Clinton. L'avocate a plus tard nié avoir des liens avec le Kremlin. Son fils avait dans un premier temps affirmé qu'elle avait porté sur un contentieux entre Washington et Moscou concernant les adoptions d'enfants. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et son directeur de campagne de l'époque, Paul Manafort, étaient également présents. Ce dernier est actuellement en procès pour fraude bancaire et fiscale, des faits mis au jour par le procureur spécial Robert Mueller au cours de son enquête sur l'ingérence russe et les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne Trump et Moscou.
En Indonésie, au moins 91 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans le séisme de magnitude 6,9 qui a secoué dimanche l'île très touristique de Lombok dans le sud, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Des milliers de bâtiments ont été endommagés selon un porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. L'alerte au tsunami a été levée, celui de 2004 avait coûté la vie à plus de 168 000 personnes en Indonésie.
Ici, aux États-Unis, une 7e personne a perdu la vie dans l'incendie Carr, à 600 km au nord-est de San Francisco, en Californie, alors que 2 autres feux plus au sud se sont aggravés, forçant l'évacuation de centaines de personnes. L'incendie Carr, près de la ville de Redding, a déjà détruit en 2 semaines plus de 1600 bâtiments, dont 1080 maisons. À l'appel du gouverneur de la Californie, qui estime les dégâts de Carr à plus de 98 millions de dollars jusqu'ici, le président Trump a demandé au gouvernement fédéral de venir en aide aux communautés affectées.
L'explosion que le président du Nicaragua, Nicolas Maduro, a qualifiée de tentative d'assassinat contre lui, a provoqué dimanche des réactions de soutien de ses alliés traditionnels et les dénégations véhémentes des pays accusés d'avoir joué un rôle dans cet incident. La Colombie a qualifié d'absurde les accusations de Nicolas Maduro contre son président Juan Manuel Santos. De son côté, John Bolton, le conseiller de la Maison-Blanche en matière de sécurité nationale, a affirmé catégoriquement qu'il n'y a eu absolument aucune participation du gouvernement américain là-dedans.
En Syrie, les forces du régime de Damas bombardaient intensivement hier soir une zone désertique sous le contrôle du groupe État islamique près de la province de Souaïda dans le sud, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Russie a échoué récemment dans ses négociations pour faire libérer une trentaine d'otages civils enlevés par les djihadistes le mois dernier au terme d'une série d'attaques coordonnées contre la province de Souaïda ayant fait plus de 250 morts. L'un des otages, un étudiant de 19 ans, a été décapité hier selon l'OSDH.
L'Arabie saoudite a décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad et de geler toute relation commerciale, et ce en réplique aux critiques répétées d'Ottawa sur la répression des militants des droits de l'homme. Le diplomate canadien a 24 heures pour quitter le pays et l'ambassadeur saoudien au Canada a été rappelé pour consultation.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Eric Manirakiza.
La compagnie aérienne Eritrean Airlines a effectué samedi son premier vol commercial à destination de l'Éthiopie entre Asmara et Addis Abeba. Les ministres érythréens du transport et du tourisme étaient à bord de ce vol. La nouvelle route permettra d'étendre les vols régionaux de la compagnie vers le Caire, Khartoum, Jeddah et Dubaï. Le mois dernier, le directeur général d'Ethiopian Airlines avait annoncé son intention d'acquérir des parts dans Eritrean Airlines pour renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Le président américain Donald Trump a défendu samedi sa décision de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importation de Chine, soutenant que ces mesures fonctionnent bien, mieux que quiconque l'avait anticipé. Dans un tweet, M. Trump affirme que des usines ouvrent dans tous les États-Unis, les sidérurgistes travaillent à nouveau et des sommes colossales entrent dans les coffres du pays. Pékin s'est dit prêt à imposer en représailles des surtaxes de 5% à 25% sur 5207 types de produits américains représentant 60 milliards de dollars. Les zones cultivées en Irak ont diminué de moitié cet été par rapport à l'année dernière en raison de la sécheresse qui a conduit à l'interdiction de cultiver des céréales nécessitant une importante irrigation.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Athlétisme avec les championnats d'Afrique des Nations qui ont eu lieu à Asaba au Nigeria.
Oui, et le Kenya repart avec 11 médailles d'or, 6 en argent et 2 en bronze devant le pays hôte le Nigeria qui s'est bien illustré lors de la dernière journée qui a eu lieu hier. Nathaniel Glory s'offre le 400 mètres et sa compatriote Grace Aningbata remporte le triple saut. Signalons la première médaille d'or du Bénin à un championnat d'Afrique. Odile Ahouanou remporte l'or en étape long devant la Burkinabé Matt Kaola.
Une dernière journée qui a vu Marie-Josée Talou réaliser le doublé.
Oui, l'Ivoirienne s'impose sur le 200 mètres après sa médaille d'or au 100 mètres. Doublé aussi pour la Sud-Africaine Castel Semenya, 400 et 800 mètres. Et pour finir, le Kenya a remporté la finale du 4 x 400 mètres hommes devant l'Afrique du Sud. Chez les femmes, ce sont les Nigérianes qui prennent la première place. A noter que le prochain championnat d'Afrique d'athlétisme aura lieu en 2020 du côté d'Algérie.
Cyclisme avec la 10e édition du Tour du Rwanda qui a été lancé hier.
Habituellement courue en novembre, la course qui fête ses 10 ans ce mois-ci changera de catégorie pour devenir en février 2019 la plus grande course cycliste côtée du continent africain au même titre que la tropicale Amissa Bongo au Gabon. La première étape courue hier dans les rues de Rouamagana a vu la victoire au sprint de l'Algérien Azedine Lagab. Il devance l'Espagnol David Lorenzo Lozano et le Sud-Africain James Fourie. Deuxième étape se joue entre Kigali et Ouye sur une distance de 120 km.
Cannes des moins de 17 ans, Tanzanie 2019, la zone UNIFAC a démarré ses éliminatoires en Guinée équatoriale.
Après sa victoire inaugurale contre la RDC, la Guinée équatoriale a perdu son second match hier face au Congo, score 2-0. Les deux équipes partagent la première place du groupe avec 3 points. Deuxième journée également dans le groupe B et aujourd'hui le Tchad sera face à la Centrafrique, battu 7-1 d'entrée par le Cameroun. Précisons que dans la zone Kouzafa, c'est l'Angola qui s'est qualifiée pour la phase finale.
Mondial féminin de moins de 20 ans, la France corrige le Ghana.
Pas de miracle pour les Ghanéennes, battues 4-1 par la France, pays hôte pour leur entrée dans cette compétition. Les protégés de Youssouf Bazigui tenteront de se reprendre jeudi prochain face aux Pays-Bas, vainqueurs de la Nouvelle-Zélande 2-1.
Football toujours, mais en Europe, et Manchester City a remporté hier le Community Shield devant Chelsea.
Les Citizens de Joseph Guardiola se sont imposés sur le score de 2-0 contre les Blues de Maurizio Sarri à Wembley. Sergio Aguero, auteur d'un doublé, a permis aux Mancuniens de s'offrir cette coupe pour la cinquième fois de son histoire. Notons qu'en France, le PSG a remporté un nouveau trophée des champions en surclassant l'AS Monaco 4-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, contestation croissante de l'issue du premier tour de la présidentielle depuis la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'administration territoriale. Comme nous vous le disions en première partie, une vingtaine de candidats ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Un calme précaire règne sur Bamako depuis la proclamation des résultats provisoires. Pour illustrer ce calme précaire, les candidats donnent leur avis sur les résultats provisoires. Général Moussa Sinko Koulibaly, candidat.
Nous prenons acte de la proclamation aujourd'hui par le ministère de l'administration du territoire des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Nous considérons ces chiffres publiés comme fantaisie, très loin des votes exprimés par les Maliens. Cette élection est une honte pour ceux qui l'ont organisée. Ces élections bâclées, truquées, frauduleuses et illégitime démontre encore une fois l'incapacité de l'équipe actuelle à diriger le Mali. Nous avons décidé de rejeter l'ensemble des résultats de l'élection présidentielle.
À la Maison Bleue, siège du parti du président Modibo Sidibé, la déception a été grande car les militants ne sont pas d'accord avec le score de leur champion, Modibo Sidibé, candidat des phares.
Les innombrables irrégularités qui ont émaillé cette élection ne peuvent être acceptées dans une démocratie et traduisent un manque de respect pour notre peuple, une volonté délibéré de déposséder le peuple de son choix. Quel outrage que de spolier un peuple de son vote. Ce score, qui ne reflète en aucune manière notre action sur le terrain, ne nous découragera point, car nous ne faisons pas de la politique pour se faire attribuer des notes, mais pour conduire les dynamiques qui mènent au progrès et au bien-être de tous.
Soumaïla Cissé appelle à la mise en place d'un grand rassemblement contre la mauvaise organisation du scrutin du 29 juillet dernier.
Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. J'en appelle à la vigilance de toutes les forces démocratiques. Je les invite à la constitution d'un large front démocratique contre la fraude et la rupture. La rupture avec le système clanique instauré il y a 5 ans que certains voudraient perpétuer.
Le candidat président se réjouit de son score. Il a fait une cérémonie pour saluer ses partisans. Ibrahim Boubacar Keïta.
Cette leçon m'oblige personnellement. À travers votre vote, vous m'avez placé sur orbite. Pour vous, avec vous, pour nos enfants, les générations à venir, je dois aller encore plus loin. Je n'ai pas d'autre choix. C'est ce que vous demandez et c'est ce que vous exigez et j'irai plus loin, Inch'Allah. Lors du second tour, qui se tiendra le 12 août prochain, il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Pour cela, nous devrons une nouvelle fois aller convaincre, expliquer et démontrer auprès de tous ceux qui doutent encore, que nous sommes le meilleur choix pour le Mali.
Le premier ministre malien se penche sur l'organisation du second tour avec en toile de fond l'insécurité.
Quand on parle de 700 et quelques bureaux de vote, ce n'est pas 700 centres, parce qu'il y a souvent beaucoup de bureaux dans un seul centre. Donc nous avons analysé les raisons qui ont fait que le vote n'a pas été possible. C'est souvent lié à l'impraticabilité, c'est souvent lié aux menaces qui ont été reçues par les populations. Il y a eu des attaques contre des bureaux, soit avant, soit après, avec enlèvement de matériel. Et donc nous allons réadapter notre dispositif de manière à pouvoir contenir éventuellement ces actions.
Plusieurs candidats ont déposé leur recours en annulation au niveau de la Cour constitutionnelle. Cette institution doit aussi proclamer les résultats définitifs qui seront sans appel. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, le peuple n'aura plus à se prononcer sur la révision technique de la Constitution, comme le voulaient les députés le 5 juillet dernier. Le président Patrice Talon a en effet décidé qu'il n'y aura pas de référendum. Il l'a dit lors du traditionnel discours à la veille de la fête de l'indépendance. Les précisions de Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas organiser de référendum sur ce sujet.
Ce bout de phrase aura eu le mérite de créer la surprise au sein de l'opinion publique. Personne ne pouvait imaginer que Patrice Talon, après avoir tant cherché la révision de la Constitution, pourrait refuser de saisir l'opportunité que lui ont offert les députés en décidant que le peuple se prononce sur la révision technique de la loi fondamentale. Pour le chef de l'État, l'urgence ne saurait être l'organisation d'un référendum à quelques mois de l'organisation des législatives. Patrice Talon.
Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher. Et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure, un enjeu prioritaire.
Beaucoup saluent la clairvoyance du chef de l'État qui, en décidant de ranger au placard un projet qui lui est cher, montre qu'il reste attentif. David Bioku est un acteur politique.
Le chef de l'État a démontré encore une fois au peuple béninois qu'il est le président et qu'il a le souci de son peuple. Il y a un point capital, c'est l'humilité de l'homme.
Dans le camp de l'opposition, on se frotte les mains que le président de la République ait enfin compris qu'il ne servait à rien d'opérer une révision de la Constitution en urgence et dans la désunion en ayant à une partie de la classe politique béninoise.
L'heure n'est pas à une révision opportuniste à vive allure. L'heure est d'abord à la résolution des problèmes sociaux dans le pays. La Constitution ne résout pas le problème de la pauvreté. Pour l'instant, nous disons que c'est une perte de temps même de s'occuper du fond du projet de la révision.
Ce refus d'organiser le référendum, malgré que ce soit un projet porté par les députés de la majorité présidentielle, est un appel au sacrifice pour l'intérêt supérieur de la nation, pense Karamat Fagbourou, elle aussi a de politique.
Il nous a donné le là, il nous a expliqué où on va, comment on y va et quel est l'objectif à atteindre, qui est le développement de notre pays. Le président Talon a compris quel était l'intérêt, les besoins de notre pays.
Même si la route qui conduit à la réforme constitutionnelle semble parsemée d'embûches, Patrice Talon ne désespère pas pour autant.
Je suis convaincu qu'un jour, le sens de l'intérêt national et la raison finiront par l'emporter sur la politique politicienne. Ce jour-là, que j'appelle de tous mes voeux, les acteurs politiques trouveront à leur sein le consensus nécessaire pour valider une réforme dont l'utilité n'est plus à démontrer.
Rappelons que le référendum devrait porter sur l'amendement de 4 points précis, à savoir le couplage des élections, la représentativité des femmes au sein du Parlement, la création de la Cour des comptes et la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. De Cotonou, Ginette Fleur dans les pouvées aux Afriques.
Au Congo-Brazzaville, la police a entamé des discussions avec les parents des 13 jeunes morts dans un commissariat du quartier Chakona. Dans un premier temps, les autorités ont remis une somme de 2 millions de francs aux familles pour organiser les funérailles. Le point avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Après une première réunion avec le ministre de l'Intérieur, Raymond Boulou, c'est le samedi dernier que chaque famille est passée à la police prendre la somme de 2 millions de francs CFA. Cet argent servira aux obsèques. Après plusieurs hésitations, certaines familles ont estimé que les autorités étaient de bonne foi et qu'il fallait leur faire confiance pour le reste du processus. Casimir Ngakala, un des parents de victimes.
Il s'agit bien de leur responsabilité, que c'était leurs éléments qui étaient sur le terrain et que ça a été commis chez eux. Bon, on va vers un consensus, mais on aurait voulu que cela se passe de façon collective, hein, que tous ceux qui sont concernés injustement, dont les enfants ont été injustement traités, qu'ils prennent l'organisation des obsèques de façon collective.
Mais d'autres familles redoutent la force écrasante de l'État dans les discussions qui les lient désormais. Seules, elles n'arriveraient pas à bien négocier, prévient le représentant de la famille Kihindou.
Pour que ce que le gouvernement a dit, ce que le ministre a dit, soit pris en cause, il faut qu'il y ait un organisme à notre appui. Ça serait seulement vague-vague. Ils ont dit, hey, le gouvernement du Congo, il parle. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de les agiter là, il n'y a rien. On ne leur a pas sorti en cause du bébé noir, mais ils sont morts dans les geôles du PC Chakona. Ils en sont conscients.
Ces familles ont jusqu'ici été accompagnées par une plateforme d'ONG qui ont dénoncé le drame de Chakona du nom du commissariat de police où 13 jeunes ont trouvé la mort le 23 juillet dernier. À l'instar de Jean-Pierre Koubanza de la Maison Commune, les responsables de ces organisations attirent l'attention des familles sur l'argent.
Alors que le souhait de ce collectif était que l'État prenne en charge ces obsèques, qu'ils fassent de façon nationale comme ils ont l'habitude de faire, c'est ce que les parents ont dit. Parce que donner de l'argent à une famille, je ne sais combien, c'est aussi mettre les gens en danger.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, une autre ONG locale, exige l'autopsie sur tous les corps identifiés. Au gouvernement, l'heure est à la prudence après les premières déclarations contradictoires. Interpellé devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur a affirmé ne pas en dire long avant l'aboutissement des enquêtes en cours.
16 ont été placés en garde à vue au commissariat du quartier Chakona, où 13 effectivement, d'entre eux ont trouvé la mort. Et au stade actuel de l'enquête, on ne peut pas dire plus parce que le procureur enquête et l'inspection générale de la police nationale également est en train d'enquêter.
Avec les 2 millions reçus des autorités, plusieurs familles comptent organiser les funérailles de leurs enfants cette semaine et sans autopsie. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Au Burkina Faso, on célèbre le 35e anniversaire de l'avènement de la révolution. C'était en août 1983. Le capitaine Thomas Sankara, père de cette révolution, allait diriger le pays pendant 4 ans avant d'être assassiné en 1987. Mais les idéaux du leader révolutionnaire sont plus que jamais d'actualité, nous dit le correspondant de VO Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré, qui a rencontré des proches et anciens collaborateurs de Thomas Sankara.
Depuis le 4 août 1983, le Burkina Faso révolutionnaire, nous avons vaincu des adversités et des animosités sordides.
Le capitaine Thomas Sankara, surnommé par ses partisans les Che Guevara africains, est le leader incontesté de la révolution d'août 1983, plus précisément le 4, en Haute-Volta, qu'il rebaptise Burkina Faso un an plus tard.
Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue, patrie des hommes honnêtes.
Il était connu pour son franc-parler, son charisme. En 4 années, Thomas Sankara, selon ses proches, a travaillé à éveiller les consciences. Les Burkinabés ont découvert avec lui qu'un autre monde était possible. Maître Benoïde Sankara est le président du principal parti sankariste, UNIRPS, Union pour la Renaissance, par ailleurs avocat de la famille de Thomas Sankara.
Un autre monde fondé sur la réduction des inégalités, le combat contre la corruption, la lutte contre l'impunité, je pense déjà au tribunal populaire de la révolution.
L'intégrité, le patriotisme, le respect des biens publics étaient entre autres des valeurs fondamentales de la révolution, des réalisations au plan économique et social. Mousbila Sankara a travaillé aux côtés du père de la révolution. Il a été l'ambassadeur du Burkina Faso en Libye, de Muammar Kadhafi, grand ami de Thomas Sankara.
C'était d'abord un président jeune, engagé, qui aimait qu'on lui dise la vérité. Avec le colonel Kadhafi, ces deux personnalités, il fallait gérer.
Thomas Sankara est assassiné en 1987. C'est la fin de la révolution. L'épilogue est sombre et douloureux. Mais ceux qui ont connu les leaders révolutionnaires rassurent aujourd'hui que les idéaux de Sankara resteront toujours. Yamba Malik Sabadogo, il a lui participé à l'inhumation de Thomas Sankara.
Comme lui me l'a dit, on peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Jusqu'à présent, on constate que les idées de Thomas Sankara, de temps en temps, on les sort.
Thomas Sankara est donc assassiné en 1987. Les circonstances de son assassinat restent toujours troubles. Mais aujourd'hui, le dossier judiciaire dans le cabinet d'instruction du tribunal militaire connaît des avancées considérables, selon l'avocat de la famille, notamment avec la levée du secret défense par la France. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VO Afrique met le sport à l'honneur.
Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.